VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique centrale. En RCA, la campagne pour le référendum est en cours depuis hier. Les Centrafricains sont appelés le 13 décembre à se prononcer sur le projet de nouvelle constitution du pays. Toutes les dispositions sont prises pour assurer la réussite de cette campagne, assure le ministre centrafricain de l'administration territoriale, Modibo Bachir Walidou.
Nous avons désormais les moyens de battre campagne. Nous avons lancé cette campagne et nous sommes en train pratiquement de réussir tout ce que nous avions prévu. Nous avons lancé la commande des projets de construction à multiplier par 15 000. Nous avons lancé la commande des banderoles, des t-shirts. Nous avons mis en œuvre tout ce qu'il fallait mettre en œuvre pour que nous puissions, dans le laps de temps qui nous est légalement imparti, à partir du 2 jusqu'au 11 à minuit. Donc nous sommes particulièrement dans le délai et même quand je dis que nous sommes en retard, en fait nous ne sommes pas vraiment, vraiment en retard. Nous sommes en retard de quelques heures simplement.
Mais de nombreux Centrafricains disent ignorer le contenu de ce projet de constitution. C'est le cas de Jean-Hugues Bagali, étudiant à l'université de Bangui.
Moi, particulièrement, je connais pas le contenu de cette constitution parce que, en principe, on devait lancer cette campagne-là un mois. Il faudrait que la population ait l'idée sur ce qui est dans cette nouvelle constitution. Parce qu'on peut pas aller quand même voter comme ça. Chez nous, on attend toujours au dernier moment pour improviser les choses. Il faudrait que les populations, parce que ça va de leur vie, il faudrait qu'ils soient informés. Qu'est-ce qui est inscrit dans cette constitution? Comme ça, ils vont peut-être voter favorablement ou défavorablement.
Hugues Bagali étudie à l'université de Bangui. La crise au Burundi, qui a fait des centaines de morts depuis avril dernier, a retenu l'attention des participants à la clôture du tribunal international sur le Rwanda à Arusha, en Tanzanie. Le président de l'association des victimes, Ibuka, a estimé que si la communauté internationale ne prête pas attention au développement de cette crise, le Burundi pourrait s'attendre au pire. D'Arusha, en Tanzanie, le compte-rendu de notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Le président de l'association des victimes du génocide rwandais a estimé, quand il s'adressait aux invités au sommet des cérémonies de clôture du tribunal pénal international pour Rwanda, que la communauté internationale n'a pas retenu les leçons apprises au début du génocide. Jean de Dieu Dusingi Zemungu a indiqué que des signes évidents en début de génocide sont perceptibles dans les violences quotidiennes qui se déroulent au-delà de la Kanyarou, séparant le Burundi du Rwanda.
What is happening in Burundi shows that much is still to be done.
Ce qui se passe au Burundi montre qu'il y a encore beaucoup à faire. Pour nous les rescapés, nous trouvons que les violations du droit international humanitaire au Burundi rappellent le génocide rwandais. C'est comme s'il n'y avait pas de leçons apprises pour prévenir et arrêter ces atrocités. C'est à se demander où se trouve la responsabilité de protéger. Il y en a qui ont opté pour le silence au moment où d'autres parlent comme si c'était pour se dérober de leurs responsabilités. Il ne faut pas que l'histoire se répète pour nous rappeler le temps où la communauté internationale a laissé le Rwanda en pâture à sa tragédie.
It's again the same as we saw when the international community left Rwanda to its tragedy.
Mais pour le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour la prévention des génocides et en même temps conseiller spécial de Ban Ki-moon, le nombre de victimes du côté de la population contestataire et du côté des forces de l'ordre devient de plus en plus inquiétant. La solution pour les protagonistes burundais réside dans un dialogue franc et inclusif. Adama Dieng.
Pour moi, la question aujourd'hui, c'est comment arrêter les pertes de vies humaines. Et on a vu qu'il y a des morts dans les deux camps, aussi bien dans le camp des forces de sécurité gouvernementale que dans le camp des contestataires. Donc, il faut que ces gens-là baissent les armes. Et la solution peut être trouvée à travers le dialogue.
Pour le secrétaire général des Nations Unies, la communauté internationale a plusieurs options pour trouver une issue à la crise qui secoue le Burundi depuis bientôt 8 mois. Pour le moment, toutes les parties doivent s'asseoir ensemble autour d'une même table pour trouver une solution à la recrudescence de la violence au Burundi. Christophe Nkurunziza, Arusha, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burkina Faso, les résultats complets des élections parlementaires du dimanche dernier ont finalement été publiés hier soir par la Commission électorale nationale. D'après ces résultats, le MPP de Roch Kabore, le président élu, n'obtient pas la majorité absolue. Des détails avec notre envoyé spécial, Bagassi Koura.
Le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, devra gouverner avec un Parlement plus que jamais émietté. Le parti du président élu du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, n'a pas obtenu la majorité absolue de 64 sièges dans le futur Parlement du Burkina Faso. Bénéficiant des effets de l'insurrection d'octobre 2014, l'UPC, l'Union pour le Progrès et le Changement, dont le candidat Zéphirin Diabré est arrivé second à la présidentielle, obtient 33 sièges de députés. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti de Blaise Compaoré, qui avait 70 députés dans l'ancien Parlement, n'obtient que 18 sièges. L'ancienne Assemblée nationale, dominée par les partisans de Compaoré, avait été incendiée le 30 octobre 2014 lorsqu'elle a voulu modifier la Constitution pour permettre à Blaise Compaoré de briguer un troisième mandat. Plus de 7000 candidats étaient en lice pour les 127 sièges de la future Assemblée nationale. Bagassi Koura, Ouagadougou pour VOA Africa.
Poursuite de la conférence de l'ONU sur le climat à Paris, le continent africain qui produit le moins de gaz à effet de serre subit le plus les effets du réchauffement de la planète. Écoutons le ministre sénégalais de l'Environnement, Ali Haïdar, présent à la COP21.
Il faut un monde juste et équitable. Et nous vivrons ensemble dans ce monde juste et équitable, dans lequel les Africains trouveront leur place, le Moyen-Orient trouvera sa place, l'Asie, l'Amérique, l'Occident, tout le monde trouvera sa place, où nous vivrons un monde de terreur ensemble. Mais il n'est pas question qu'il y ait de l'eau douce d'un côté, de l'eau polluée de l'autre, de l'air frais d'un côté, de l'air pollué de l'autre. Ce monde n'est pas viable, il n'est pas durable. C'est dans la justice et l'équité. Et pour l'obtenir, bien sûr, il faut passer par l'éducation, mais l'éducation par les actes concrets. Il faut accompagner ceux qui savent faire au niveau halieutique, au niveau forestier. La solution, elle est là. Il nous faut juste l'appliquer.
Ali Haïdar, ministre sénégalais de l'Environnement. Insécurité grandissante à Lomé au Togo, les vols et agressions à l'arme blanche sont devenus monnaie courante dans la capitale togolaise. La peur s'est installée chez les habitants et certains Loméens se sont imposés un couvre-feu et disent ne plus sortir au-delà d'une certaine heure le soir. Plus de détails avec notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Face à la recrudescence des agressions, une peur s'est emparée de Lomé.
Quand vous sortez, au plus tard, 20h30, 21h, on doit rentrer à la maison, être barricadé. C'est plus intéressant comme avant, en fait. Nous ne sommes plus en sécurité dans ce pays.
Se sentant vulnérable, la population renoue avec les vindictes populaires. Des cas ont été signalés la semaine dernière dans la banlieue est de Lomé. Témoignage.
Un voleur est venu dans une maison et la bonne l'a vu. Aussitôt que la bonne l'a vu, il a commencé par frapper la bonne mortellement. On était en train de le lyncher depuis le petit matin, environ de 5h ou à 6h. Il était lynché, même brûlé.
Face à cette psychose généralisée, les Loméens interpellent les autorités togolaises.
Le gouvernement n'a qu'à jouer son rôle. Il ne joue pas son rôle parce que, franchement parlant, personne n'est en sécurité. Même sur la moto, même à la maison, partout, on ne sont plus en sécurité.
Comme souhaité par la population, le ministère de la Sécurité a renforcé les patrouilles dans des zones à haut risque, ce qui fait que ces derniers jours, les cas d'agression ont sensiblement diminué. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Le reste de l'actualité en Afrique, le Conseil de sécurité de l'ONU a réaffirmé hier son intention de prendre des mesures contre les saboteurs du processus de paix au Soudan du Sud et ceux qui s'en prennent aux civils et attaquent les casques bleus. Samantha Power, la représentante permanente américaine qui préside le Conseil de sécurité ce mois-ci, a déploré en particulier les retards pris dans la formation du gouvernement de transition prévu par le plan de paix du 26 août.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Actualité aux États-Unis, au moins 14 personnes ont été tuées, 17 blessées hier quand 3 personnes lourdement armées se sont ruées sur un centre social au service de personnes handicapées à San Bernardino, situé à 1 heure environ de Los Angeles en Californie. Plus de détails avec Idrissa Sedoudia.
La police a abattu 2 des suspects, un homme et une femme de 28 et 27 ans. Il s'agit de Saïd Farouk, un citoyen américain de 28 ans, employé de cette ville, et de Tashfin Malik, dont la nationalité n'est pas connue, a indiqué le chef de la police de la ville, Gerald Burgon. Une troisième personne qui était vue en train de s'enfuir a été arrêtée, mais on ne sait pas si elle est impliquée.
Voilà. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de La Voix de l'Amérique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.